La communauté du roi, quand on a trouvé ce titre de série, j'ai trouvé que ça faisait très Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a la communauté de l'anneau, le retour du roi, mais là c'est la communauté du roi. Vous savez que pendant cette année, on a réfléchi à travers tout le cycle de prédication sur ce rôle de leader. Et qui est-ce qui conduit le peuple de Dieu? On a vu avec les juges comme quand chacun fait comme il lui semble bon, comment ça peut vraiment partir n'importe comment. On a vu que la solution, c'est que Dieu envoie quelqu'un et cette promesse d'envoyer un fils. Et on a vu Jésus à travers les je suis qu'il a rappelé qui il est, quel est son caractère, comment il conduit son église. C'est lui le roi et à présent, avec une courte série, on aimerait parler un peu de comment fonctionne la communauté du roi, la communauté qui constitue. Et c'est pas mal de commencer cette série aujourd'hui parce que aujourd'hui, ça nous a été rappelé, c'est la Pentecôte. Et lorsque Dieu envoie le Saint-Esprit, c'est la naissance de l'Église. C'est quand les croyants reçoivent l'Esprit qu'ils sont ajoutés à l'Église. C'est ça qui ajoute à l'Église. Mais ce matin, pour commencer la série, on va la commencer un peu avec un contre-exemple. C'est un peu l'anti-communauté du roi. Parce que les Corinthiens, et dans le texte qu'on va lire en particulier, lisons-le. 1 Corinthiens au chapitre 11 à partir du verset 17. 1 Corinthiens au chapitre 11 et je commence la lecture que vous pouvez écouter au verset 17. C'est Paul qui écrit. Si je ne vous félicite pas en formulant cette injonction, c'est que vous vous réunissez non pas pour le meilleur, mais pour le pire. D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en Église, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait des dissensions entre vous pour que ceux d'entre vous qui résistent à l'épreuve puissent se manifester. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au dîner du Seigneur, car au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre dîner, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu en faisant honte à ceux qui n'ont rien? Que dois-je vous dire? Dois-je vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe, après le dîner, en disant, « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine plutôt lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre se sont endormis dans la mort. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ses jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour votre propre jugement. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ce texte vous semble peut-être familier, au moins en partie. On le lit régulièrement au moment de partager la Sainte Cène, à tel point que peut-être certains le connaissent par cœur. C'est bien de connaître des textes par cœur, c'est aussi dangereux parce que des fois, ils passent comme ça et on n'y fait plus attention. Mais ce matin, on a pris ce texte de façon plus étendue. Je ne sais pas vous, mais je trouve que ça fait un peu peur. La perspective de prendre la scène indignement et ainsi de prendre un jugement contre soi-même, ça fait réfléchir, non ? Peut-être certains se posent-ils la question, est-ce que je peux prendre la Sainte Cène ? Ce texte nous permet de nous pencher sur la question. Il est tiré de la première épître aux Corinthiens et c'est une lettre qui a été écrite par Paul à l'église de Corinthe. C'est toujours particulier les lettres de Paul et celle-là tout particulièrement parce qu'une lettre de Paul, elle répond à des questions, elle veut régler des problèmes qui se passent localement. Et nous, eh ben dans la Bible, on n'a que la réponse de Paul. On n'a pas la situation, on n'a pas les questions, on ne connaît pas le problème réel. Mais bon, quand on étudie le texte, et puis quand on connaît un peu la façon dont fonctionne l'homme, on peut comprendre quelle est la problématique. Ces textes, même s'ils ne nous sont pas directement destinés, ils sont importants. Alors, Corinthe, c'est pas une église qui fait envie. Je sais pas comment vous faites quand vous avez choisi cette église, quand vous changez de ville et que vous choisissez une église. Moi, avec le temps, je connais un peu du monde et j'essaye de poser des questions à ceux que je connais. Est-ce que tu connais telle église, telle autre ? Est-ce que tu as quelque chose à me dire sur elle ? Là, pour le coup, si je me base sur les écrits du Nouveau Testament, c'est pas Corinthe que je choisirais. Il y a des divisions entre les croyants, il y a des trucs chelous, il y a un cas d'inceste, quelqu'un qui s'est marié avec la femme de son père, vraisemblablement, il y a des procès entre les chrétiens dans l'Église, il y a des gens qui disent que les personnes mariées ne doivent plus avoir de relations conjugales, d'autres qui, assez ouvertement, vont voir des prostituées. Quant au culte, ça a l'air de partir dans tous les sens, avec plein de monde qui parle en même temps. Clairement, cette église a des problèmes, on peut même dire qu'elle collectionne les problèmes. Et on peut se demander en quoi ce qui est dit à cette église nous concerne nous. Nous, on n'a pas de problème. Ou pas beaucoup. Cette lettre, elle fait partie du canon du Nouveau Testament. Elle fait partie de la parole de Dieu et Dieu estime que les chrétiens ont une utilité à écouter ce qu'il a fallu dire à ce moment-là aux croyants de Corinthe. Et cette utilité, elle est là ne serait-ce que pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Alors allons-y. Quel est le problème à l'église de Corinthe, le problème dont parle Paul dans le texte que nous avons lu. Verset 21, « Au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre dîner, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. » On a un peu du mal à imaginer ça au moment de la Sainte Cène. Ce n'est pas avec le petit bout de pain et la petite coupe qu'on va être ivre. Mais j'ai lu un commentaire écrit par Robert Somerville et qui explique un peu dans le contexte. L'habitude, c'est de prendre la scène pendant des repas. Ça vient des judéo-chrétiens, des juifs devenus chrétiens. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, qu'ils avaient l'habitude d'aller dans la maison pour rompre le pain et partager les repas. Et cette habitude, qui est bonne parce que les repas, c'est sympa, ça permet de faire connaissance, ça permet de passer du temps ensemble. Cette habitude semble s'être étendue aussi aux églises d'origine païenne. On ne sait pas si c'était systématique ou pas, en tout cas, ça semble s'être étendu. Et à cette époque, les communautés se réunissaient dans des maisons. Il n'y avait pas d'église, de bâtiment pour recevoir l'église, ça se recevait dans les maisons. Et l'organisation des maisons, ça favorise un repas avec plusieurs catégories d'invités. Parce qu'il y a la salle à manger avec les invités qui mangent couchés. Et quand on mange couché, ben, ça prend de la place. Donc on ne peut pas être beaucoup autour de la table. Et les autres mangent debout, dans le hall, dans l'atrium. Ça se faisait beaucoup. Les amis, les proches du maître de maison sont là dans la salle à manger. Et puis ce qu'on appelle les clients, ceux que le maître de maison soutient, ben, ils sont quand même invités et eux, ils mangent dans le hall. Un autre point tout à fait possible qu'on peut prendre en compte, c'est que ben, dans ces maisons, les propriétaires, ce sont les plus riches, les exploitants, et on peut imaginer qu'ils pouvaient aller aux réunions suffisamment tôt et que les autres, les ouvriers, les esclaves, ben, ils arrivent quand ils ont fini leur travail. Du coup, peut-être en attendant, on pouvait commencer à manger, ce qui explique que certains sont déjà bien avancés, bien chargés, quand d'autres arrivent. Je ne pense pas que ce soit pendant, avec le repas symbolique de la scène qui est un problème, mais c'est pas la partie de la scène, elle était très certainement bien pratiquée, mais c'est en marge de ça. C'est ce repas qui accompagne. Et Paul dit avec force, nous l'avons lu, je pense que vous l'avez entendu, que ce n'est pas bon. Ce n'est pas une question de est-ce qu'on balise bien la partie cultuelle, on dit maintenant c'est le début du culte, c'est le début de la scène, on fait les choses bien, on finit et après on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas comme si on pouvait séparer le spirituel et l'amical, le spirituel et le reste de la vie. Quand vous vous réunissez, dit Paul, quand vous vous réunissez, tout prend sens. Et là, vos réunions vous font plus de mal que de bien. C'est ainsi que la traduction NFC traduit le verset 17. Vos réunions vous font plus de mal que de bien. Et effectivement, les réunions font du mal. Paul le dit, il y a des conséquences, il y a des gens qui sont malades et il y en a même qui meurent. C'est étonnant ce verset, parce que Paul fait le lien entre la mauvaise santé physique. Alors, j'aimerais mettre un gros panneau, attention, Paul ne dit pas que tout ce qui nous arrive dans nos vies sont des conséquences de la façon dont nous vivons notre foi. Genre, si nous faisons ce que Dieu demande, alors tout ira bien, et s'il nous arrive quelque chose de mal, ben c'est qu'on a fait quelque chose et que c'est une punition. C'est pas ça l'évangile de Jésus-Christ, c'est pas ça la vie sous la grâce. On n'est pas comme ça rétribué avec un système de récompense-punition. On est sauvé par grâce, le don de Dieu. Mais Paul dit aussi que parfois, une mauvaise santé spirituelle peut entraîner une mauvaise santé physique. Et pour Paul, je pense qu'on peut lui faire confiance, celle qu'ils connaissent actuellement dans l'Église est un jugement de la part de Dieu. Et Paul explique ce jugement. Ce jugement, c'est un moyen pour Dieu de les interpeller. Parce que, il le dit au verset 31 et 32, si nous sommes seuls à nous juger, à évoluer notre comportement, tout va bien. On se compare aux autres, il y a toujours des gens pires. On voit ce qui se fait à l'extérieur, on est dans l'air du temps. Nous avons besoin de Dieu pour nous corriger, pour nous reprendre, pour nous interpeller. Tout seul, nous courons à notre perte. Le Seigneur vient pour corriger, il punit. Ce n'est pas le jugement éternel, la punition ultime, c'est une correction pour permettre de se remettre sur le droit chemin. Je disais, c'est un peu l'anti-communauté du roi Jésus-Christ. Les Corinthiens se réunissent pour le pire et non le meilleur. Non seulement il y a des divisions entre eux, ça arrive de connaître des divisions entre humains dans l'Église, mais là, elles s'incarnent jusque dans le culte. Et leur culte, au lieu de faire du bien, est un lieu où ils se font du mal les uns aux autres et ils se font du mal jusque dans leur corps qui en porte des conséquences. Le tableau est peu reluisant. Quel meilleur modèle faudrait-il viser? Quel est le modèle? Le modèle, Paul le donne. Il le rappelle. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. J'ai reçu du Seigneur. Et le texte qui suit, où Paul rappelle la scène, son établissement, est très proche du récit qu'on trouve dans les évangiles. Et sans doute est-il aussi proche parce que y a une part de liturgie. Dans toutes les églises, on devait dire à peu près la même chose, pas exactement la même chose, hein. Il y a des petites différences d'un évangile à l'autre et des évangiles synoptiques avec un Corinthien. Mais globalement, c'est la même chose. Il ne s'agit pas de prononcer les mêmes paroles, des paroles magiques, mais c'est quand même un passage obligé. Il disait, parfois, on connaît les choses presque par cœur et on y fait moins attention. Pour préparer cette prédication, j'ai porté une attention particulière et j'ai été attiré par quelques points. Jésus commence par dire « C'est mon corps qui est pour vous. » Dans certaines traductions, « donné pour vous. » Alors que pour les Corinthiens, ces repas sont l'occasion de vivre des divisions, de marquer leurs différences. On nous rappelle que Jésus, lui, s'est donné. Et il n'a pas donné ce qu'il possédait, ce qu'il avait en trop, il s'est donné lui-même, son corps, son sang. Il était Dieu, fils, tranquille auprès du Père. Il a accepté de vivre en homme, de souffrir en homme. Et ça, il l'a fait pour nous. Deuxième élément que je remarque, la nuit où il fut livré. S'il y avait une nuit, un soir où Jésus aurait pas eu pensé à lui, est-ce que ce n'est pas celui-là? Il allait être arrêté, trahi par l'un des siens, et il le savait. Et les évangiles nous disent que cela le tourmentait. Mais cette nuit, il n'a pas pensé à lui. Mais il a vécu ce temps avec ses disciples, avec ceux qui le suivaient. Après avoir rendu grâce, c'est une autre chose que je relève. Il commence par rendre grâce, c'est-à-dire qu'il remercie Dieu. Il le remercie pour les aliments qu'ils vont prendre, qu'il va partager entre eux. Et là encore, peu importe l'angoisse présente, la mort qui rôde, il remercie Dieu. Peu importe si c'est son corps, son sang qu'il donne, c'est de Dieu que ça vient. C'est lui qu'il est bon de remercier. Ensuite, il y a le pain. La coupe. Ils partagent tous le même repas. Alors, c'est un repas symbolique, c'est pas le repas qui va nourrir pour une journée. Mais dans ce symbole, il fait vivre cette réalité. Ils partagent tout. Ils vivent tous de la même source. Et puis Jésus déclare, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Nouvelle alliance, ça implique qu'il y a une ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'était celle de Moïse. C'était la loi. Si vous obéissez à mes commandements, vous connaîtrez la bénédiction dans le pays que je vous ai donné. Cette alliance, elle a été extrêmement malmenée. Le peuple a été déporté, dispersé, mélangé. Le pays est occupé, découpé. Que reste-t-il de cette alliance, à part peut-être l'espérance d'un rétablissement? Jésus propose une nouvelle alliance. Celui qui croit en moi, celui qui se met à ma suite, vivra. Il sera ajouté à mon peuple, à la descendance d'Abraham. Et pour ceci, Jésus a versé son sang comme gage de l'alliance qu'il a scellé. Vous savez, certains font des alliances pour devenir frères de sang et on se coupe et on mélange le sang. Là, Jésus a fait couler son sang pour sceller l'alliance, pour la valider. Rien ne peut la détruire. Faites ceci en mémoire de moi, dit-il. Et à cette part liturgique, Paul ajoute un commentaire. Il leur dit, vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez la mort du Seigneur. Ce moment pris ensemble, ce n'est pas seulement un moment personnel. C'est un moment, c'est une annonce qui est faite. Un témoignage, une prédication. Ensemble, les croyants prêchent ce qu'ils croient. À qui le prêche-t-il? À qui l'annonce-t-il? Déjà, à ceux qui sont présents dans le rassemblement et qui les voient. Ils se l'annoncent les uns aux autres, mais pas que. Ils se l'annoncent à eux-mêmes aussi. Christ est mort et nous devons l'appliquer dans nos vies. Il s'est donné pour nous. S'il a donné son corps, son sang, sa vie, est-il possible de continuer à gérer mes biens égoïstement? De dire, c'est à moi. J'en fais ce que je veux. Je partage avec qui je veux. Il l'annonce à ceux qui sont dans le rassemblement, à eux-mêmes, et je l'espère aussi à ceux qui sont du dehors. Ceux qui sont du dehors ne seront pas forcément sensibles aux gestes de la Sainte Cène, mais si nous vivons vraiment dans la communauté le don de soi comme Jésus s'est donné, alors ça devrait se voir à l'extérieur. Ça devrait faire une différence dans la société ambiante, non? Jusqu'à ce qu'ils viennent. Ce n'est pas pour un temps, ce n'est pas quelque chose à faire à la dernière minute avant que Jésus arrive, il faudra remettre les choses en place. C'est au quotidien, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce qu'il revienne. Et Paul met en garde. Ne prenez pas ce repas indignement. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas prendre le repas indignement? Il ne s'agit pas de savoir si on est digne de prendre la scène. C'est la manière de prendre la scène qui doit être digne. Digne de son statut de chrétien. Digne de ce qu'on est un petit Christ. Paul invite à s'examiner. Que la scène soit pour vous, écrit-il, l'occasion de faire le point. Est-ce que vous vivez réellement en chrétien, en frères et sœurs, vos moments de culte? Est-ce que vous vivez réellement en chrétien, en frères et sœurs, toute votre vie? Il ne s'agit pas de s'examiner en mode test, du genre « Est-ce que j'ai été suffisamment chrétien cette semaine pour prendre la scène ?» Il n'y a pas de péché qui puisse nous priver de la grâce de Dieu et de participer à l'Église. Et d'ailleurs, Paul ne dit pas dans l'Épître que chacun s'examine pour voir s'il peut manger le pain ou boire la coupe. Non, il dit que chacun s'examine plutôt et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent la coupe. Mangez, profitez de l'occasion pour vous examiner, pour vous recaler sur ce que vous devez faire. Quelle application pour nous ? Je disais, on n'est pas l'église de Corinthe et nous ne prenons pas la scène pendant des repas où nous pourrions de la même façon nous ignorer les uns les autres. Mais il y a quelques pistes de réflexion qui me viennent, non pas des reproches à formuler à cette église, non pas des choses que j'aurais constatées, des problèmes actuels, mais des choses qu'on peut garder en tête, sur lesquels on peut être vigilant dans la façon dont on vit ensemble. Première chose dont j'aimerais parler, ce sont les repas fraternels. Nous aimons en avoir ces temps, ces repas où chacun amène quelque chose à manger et on partage ensemble. Alors on en a moins qu'à une époque, depuis qu'on a grandi, c'est plus compliqué à organiser sans doute. Ce serait pas mal d'en avoir un peu plus, mais bon, là n'est pas le sujet. On peut suivre les conseils de l'apôtre, s'attendre, partager. C'est ce qu'on essaye de faire hein, avec l'organisation. Nous mettons tout en commun sur des tables et que nous nous servons ainsi ensemble. Et puis on voit comme ça tous les plats préparés par chacun avec sa personnalité et c'est beau. Et on a envie de tout goûter. En tout cas, moi, j'ai envie de tout goûter. Mais gardons la conscience que d'autres sont aussi derrière nous, dans la queue. Et servons-nous de telle façon qu'il reste aussi du choix pour les suivants, qu'il reste aussi du choix pour les derniers. Je crois que c'est une façon simple et à notre portée d'appliquer ce texte dans notre vie d'église et de nous attendre. Il y a une autre application, et celle-là, je la pique à un écrivain, Craig Bloomberg, qui dit que lorsqu'on réalise que les excès d'écrits se produisaient durant les repas communautaires et aux dépens des chrétiens pauvres, on comprend que boire et manger d'une manière indigne s'applique dans notre culture moderne à quiconque participe sans hésiter au repas du Seigneur, sans jamais faire don d'une partie de son superflu aux pauvres. Pas grand-chose à ajouter à cette citation qui est explicite. La Bible, le Nouveau Testament, insiste sur la solidarité. La scène, la lecture du texte que nous venons de faire devrait nous encourager à la vivre. Si vous ne savez pas comment la vivre, vous pouvez vous rapprocher dans l'Église de la Commission sociale, Virginie en particulier, qui permet de faire circuler l'argent vers ceux qui parmi nous en ont le plus besoin. J'aimerais ajouter qu'on peut aussi être, si certains peuvent être généreux en argent, on peut aussi l'être en temps. Certains ont plus de temps que d'autres et peuvent le partager avec ceux qui en manquent. Troisième piste d'application, c'est cette idée de se méfier du pouvoir de l'argent. Le conseil de l'Église a remarqué une tendance, une attitude de dire « Si l'Église ne veut pas acheter ce que je veux, moi je vais l'acheter pour l'Église avec mon argent. » La générosité, c'est une bonne chose et nous l'encourageons, nous l'accueillons avec reconnaissance. Humainement, notre Église ne vit que de cela, de la générosité de ses donateurs. Mais je crois que cette générosité doit être vécue dans la soumission mutuelle. Soumission à l'Assemblée générale qui vote un budget, au Conseil qui l'administre en son nom. Les initiatives et les idées sont les bienvenues, Mais mon aisance matérielle ne saurait être un moyen de faire passer des décisions pour lesquelles l'Église a préféré attendre. Comme je le disais, il ne s'agit pas de reproches, je ne suis pas en train de dénoncer un problème, juste en train d'attirer notre attention sur ce qui pourrait un jour devenir un problème. Quatrième piste, l'invitation, entendre l'invitation de Paul à s'examiner. L'apôtre invite à s'examiner quand nous prenons la scène, faisons-le. Non pas pour savoir si on est digne de prendre la scène ou non, mais examinons-nous pour faire le point sur notre façon de vivre en chrétien. Est-ce que je discerne le corps? Est-ce que je reconnais que je fais partie d'un ensemble plus grand dans lequel je suis appelé à me fondre? Dans lequel l'amour, la recherche de l'intérêt commun, la soumission du Christ, la soumission au Christ, pardon, doit régner. Examiner pour me poser la question, est-ce que concrètement, je n'ai pas contre un frère ou une sœur quelque chose que je devrais régler? Comme Jésus nous y invitait dans le sermon sur la montagne, si tu as quelque chose, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier. La scène est une occasion régulière de vérifier que nous sommes toujours des chrétiens dignes, dignes de la grâce et du pardon que nous avons reçu. Et cet examen, c'est une interpellation, une occasion de demander pardon à Dieu, de nous réconcilier avec notre sœur, avec notre frère. Saisissons cette occasion. Faites ceci en mémoire de moi. La façon de prendre la scène à Corinthe est une sorte d'anti-église, l'inverse de ce qu'il faudrait faire. La scène et les repas qu'ils prennent marquent les divisions alors qu'ils devraient les amener à se rapprocher les uns des autres. Nous, veillons à ce que nos réunions ne fassent pas plus de mal que de bien. Qu'elles ne fassent pas de mal, mais qu'elles fassent du bien. Et que la scène que nous prenons régulièrement et que nous allons prendre maintenant nous permette de nous examiner et de nous réaligner sur notre modèle, Jésus-Christ, lui qui s'est donné pour nous.